Mais la miséricorde de Dieu nous accepte en philosophe. Et Dieu, dans sa miséricorde, respecte la philosophie. Il l'aime d'un amour moindre que la théologie, c'est sûr, mais il l'aime. Il l'aime comme la petite cadette qui reste toujours un peu la petite dernière. Alors, il l'aime avec d'autant plus de charme, de douceur, de tendresse. Il ne faut pas l'oublier. Si on fait le cours de théologie, le cours de philosophie, je veux dire ici, c'est par miséricorde pour le professeur. Donc c'est une miséricorde vis-à-vis d'une personne. On ne fait pas une miséricorde à l'égard de la philosophie, ni à l'égard de la théologie, mais on fait une miséricorde à l'égard d'une personne. Il faut savoir ce qu'on fait. Je vous ai parlé la dernière fois dans les sensibles proprement dits, qui sont l'acte de tous les corps physiques, notre monde physique est un monde qui a son originalité propre. Et son originalité propre, je la saisis par les sensibles propres. Ce monde se donne à nous d'une manière originale. Il n'a pas peur de sa fragilité, de sa faiblesse. Et l'homme savant n'a pas assez de respect vis-à-vis de lui. C'est le dernier. Il le capte, le monde sensible, par le point de vue des sensibles communs. Par là, il possède le monde physique, tandis qu'au contraire, dès qu'il s'aperçoit qu'il y a autre chose que les sensibles communs, qu'il y a sensible propre, à ce moment-là, l'homme, dans son intelligence, dans ses expériences, est obligé d'être réceptif le plus possible, c'est-à-dire de capter ses sensibles propres sans les abîmer, sans les humaniser, en leur laissant leur caractère propre. Au fond, quand l'homme ramène tout au sensible commun, je peux dire que l'homme ne connaît plus l'univers dans ce qu'il a de propre. Il connaît un univers qui est en vue des sensibles communs. Donc un univers mesurable, un univers qu'il peut capter, prendre, saisir. C'est très étonnant, ça. Et c'est très vrai. Au fond, les sensibles communs ont cet avantage, c'est qu'ils sont connus humainement, qu'ils sont mesurés par l'homme et captés par l'homme, tandis que les sensibles communs gardent leur indépendance, car leur caractère propre qui fait que l'homme s'incline devant les sensibles propres. Il s'incline pour essayer de les saisir dans leur caractère particulier. Les sensibles propres ne sont pas connus par d'autres sensibles. Le sensible commun est connu par d'autres sensibles. Donc, j'allais dire que le caractère de la qualité sensible n'est atteint que par les sensibles propres. Et nous avons la possibilité, grâce à nos sens, de saisir ces sensibles propres. Il y a des sensibles propres pour les cinq sens. Les cinq sens ont leur sensible propre. Il y a une harmonie, j'allais presque dire préétablie, comme disent certains philosophes, c'est pas tout à fait vrai de dire ça, mais il y a une harmonie entre ces sensibles propres et ma connaissance sensible. Je saisis les sensibles propres du toucher, je saisis les sensibles propres de l'odorat, je saisis les sensibles propres de l'ouïe. Et c'est très important de saisir les sensibles propres. Il suffit de voir la manière dont le peintre regarde son objet. Je me souviens de ce peintre à Paris, très connu, qui disait « J'aime regarder une pomme ». C'est si bien fait, une pomme. Chaque pomme a son caractère, par sa couleur, par sa forme. Et ce qui est terrible, c'est qu'on vend un panier de pommes. Et par le fait même, on ne voit plus la pomme. On regarde le panier de pommes. Et comme il n'était pas philosophe, que j'étais un pur artiste, il vivait avec ses pommes. Il parlait à sa façon du philosophe. vend un panier de pommes. Et il était presque dans la désolation pour la pomme. On vend un panier de pommes. Et quand vous vendez un panier de pommes, vous faites aucune attention au sensible propre de la pomme. Produit commun. Et l'immense avantage des sensibles communs, c'est que ils entrent dans le commerce. Et au fond, les gens autour de nous regardent le monde physique dans la lumière du commerce. Donc, ils ne voient plus les sensibles propres. Les sensibles propres sont évacués de notre monde. Si on ne fait pas grande attention, on se laisse nous-mêmes prendre par ça. Et on ne saisit plus le sensible. Or, le sensible propre, c'est votre contact avec le monde physique. C'est votre contact réel. Un contact premier qui n'est pas falsifié et qui fait que la pomme, vous voyez, la pomme, c'est une pomme, elle est unique. Et c'est ce qui intéresse l'artiste. Et chaque pomme est différente, sensible propre. Et toutes les pommes sont semblables, sensibles communs. Et là, vous vendez un kilo de pommes. Pauvre sensible propre. Vous vendez un kilo de pommes. Vous vendez un kilo sensible propre. Est-ce que c'est possible? Vous voyez justement que le sensible propre échappe au commerce. Il échappe au commerce. Et il est sauvé grâce à l'artiste. Heureusement qu'il y a des artistes encore dans le monde, parce que ils sauvent pour nous le sensible propre. Un grand artiste met en pleine lumière les sensibles propres. Il fait juste l'inverse. Il montre ce qu'il y a d'unique dans le sensible propre, la lumière. Unique. Je ne continue pas, parce qu'on passerait tout son cours à rester au sensible propre. Le philosophe doit aimer les sensibles propres. Il doit les aimer, puisque c'est par là qu'il a contact avec le monde physique. Notre monde physique est intéressant artistiquement, philosophiquement, dans la mesure où il nous donne les sensibles propres. Il nous les donne. Quand vous regardez une pomme, dans ce qu'elle a d'unique, la pomme ne réclame pas 10 centimes, 10 francs. Vous avez regardé pendant une heure. Non, c'est gratuit. C'est extraordinaire de voir que c'est les sensibles propres qui m'apprennent la gratuité. Et ils ont donné, c'est donné, c'est donné. La lumière, c'est donné. Le soleil ne nous demande pas chaque année le prix de la lumière qu'il nous a donné. Et quand vous commencez à posséder la lumière, vous la possédez comme un sensible propre, comme un sensible commun, je veux dire. Au point de vue qualité, il y a maintenant les qualités de l'esprit. Sensible, c'est les qualités du monde physique. Mais il y a les qualités du monde de l'esprit. Et les qualités du monde de l'esprit, c'est très différent. C'est là où tout un problème, comme Aristote a mis très en lumière, le problème de l'habitus. Le problème de l'habitus n'existe pas pour les sensibles propres. Le sensible propre est au-delà de l'habitus, puisqu'on ne peut pas le posséder. Vous ne possédez pas la lumière, vous ne possédez pas ce qu'il y a d'unique dans chaque sensible propre. Non, c'est un don. C'est l'univers qui se donne, et qui se donne à l'homme, et qui est là pour l'homme. Les qualités sensibles, alors, c'est vraiment le sensible propre. Les qualités spirituelles, quelles sont vos qualités spirituelles? Oui, là intervient tout de suite l'éthique. Mais il faut la dépasser. L'éthique me montre les qualités d'un homme bon, les qualités d'un cheval bon, les qualités d'une tortue bonne. La qualité de la tortue bonne est quand même très différente de la qualité du cheval. Puisque si le cheval ne marche pas, vous lui dites de ne pas être comme une tortue. C'est chaque réalité particulière qui possède ses qualités spirituelles. Et c'est bien des qualités spirituelles. Je crois que la vache qui broute son herbe, elle a bien contact avec des sensibles propres, mais elle n'a aucun contact avec des sensibles spirituels, ce qu'on appelle les habitus. C'est quand même très curieux, ça. Les habitus, c'est quelque chose qu'on acquiert. Les sensibles propres, oui, on les garde, mais on ne les acquiert pas. Finesse d'une figure d'un enfant. C'est une qualité. Ah, la figure. Tiens, c'est la figure qui commence à me faire découvrir ce monde, ce passage du sensible au spirituel. C'est, je crois, la première chose qu'on doit saisir, le sensible propre du monde physique, il porte en lui la possibilité d'un sensible distinct qui n'est plus sensible, qui est spirituel. Et ça commence par le point de vue de la figure. La figure. La figure au sens très, très vaste. La figure d'un paysage. On vient de couper le blé. Ce champ que j'avais vu, il était encore lui-même, sans trop de ravages faits par l'homme. Je vois que l'homme est capable de couper et de former des temps. C'est à l'égard qu'il y a quelque chose de nouveau, d'irréductible avec le sensible. Le monde des qualités spirituelles, et ces qualités spirituelles commencent avec la figura, la figure. La figure, vous pouvez l'employer justement de diverses manières. Un peintre aime de se peindre. Oh bon. Pourquoi aime-t-il de se peindre ? C'est qu'il trouve en se peignant quelque chose qu'il ne trouve chez personne d'autre. Est une qualité. C'est une qualité. Mais voyez, c'est une qualité qui est complexe et qui cependant se ramène à l'unité. Une figure implique des couleurs, implique des formes, implique des... Il y a des tas de choses pour la figure. Et c'est ça qui fait figure, ce n'est plus le sensible propre attaché au monde physique. Non. C'est quelque chose d'autre qui va jusqu'à la figure humaine. C'est d'abord et en premier lieu la figure humaine. Ce sont le regard, les yeux, ça exprime une qualité, mais tout à fait propre, tout à fait particulière. Il y a des gens qui ont des yeux, mais qui ne voient pas. Et il y a des gens qui ont des yeux, tout de suite, ils voient des yeux vivants. Ils attrapent la couleur. Quand vous êtes regardé par quelqu'un, ça arrive quand même de temps en temps, vous êtes regardé par quelqu'un, ou parce que vous êtes très sage, ou parce que vous êtes très chuteur, des extrêmes. Mais au fond, vous attirez l'attention. La figure d'un enfant attire l'attention. Et là, c'est pas volontaire. Elle attire l'attention. La figure. Chose d'unique, la figure, quelque chose d'unique. monde physique, une figure apparaît. Alors, de la figure humaine, on a fait glisser le mot jusque dans le monde physique. Tout monde physique, le monde sensible, a une figura. Tout paysage a sa figure. Toute montagne a sa figure. Donc, ce n'est pas uniquement le regard. Parce que le Mont Blanc, comme regard, c'est fameux, il n'existe pas. Il n'intimide personne. Humaines, d'enfants, de vieillards, d'hommes, de femmes, vieux. C'est le principal, hein. Quand Rembrandt essaie de se peindre, c'est le sujet principal. C'est lui. La vue manifeste la personne, manifeste quelque chose d'unique. Aucun vêtement, aucun habillement d'arbre, de fruitier, peut arriver à nous donner ce que c'est qu'une figure. C'est quelque chose d'unique. Dans le regard, dans ses yeux, le regard est source de lumière, et c'est peut-être cela qui est le plus impressionnant, c'est que le regard est source de lumière, et c'est justement quand quelqu'un est sur son lit de mort, qui n'est pas encore mort, il a un regard humain, et le passage du regard humain extrêmement grand, intéressant, parce qu'au fond, dans un regard humain, c'est plus que le monde physique, c'est quelque chose d'autre. Vous ne précisez pas du reste, c'est quelque chose d'autre. Dans le monde physique, la personne. Et donc, quelque chose de nouveau qui m'est donné dans le regard de la physionomie, d'un paysage, d'une route. C'est une chose très spéciale. figure, il y a le monde physique qui m'échappe. Quelque chose d'unique. Je ne peux pas reproduire. C'est unique. Il y a donc dans le monde spirituel une figure. Et cette figure peut être une figure très intérieure. C'est extraordinaire de voir comme le regard fait tout de suite appel à l'intériorité. Il n'y a pas que l'aspect de quelqu'un qui se meurt. Il y a qualité physique et spirituelle, c'est du physique et du spirituel. Le regard, la personne peut être regardée pour elle-même. Et puis, m'intéresser au changement d'une figure. On dit à quelqu'un qui la vieillit. On dit que quelqu'un s'est rajeuni. Nous sommes fabriqués par le temps. C'est notre figura, elle est transformée par le temps. Dans le monde physique, ça se voit moins, mais dans le monde des vivants, ça se voit beaucoup. Et dans la figure humaine, le point de vue du temps, justement, sa marque. La figure du tout petit enfant, la figure du vieillard. Vous voyez, le temps se donne à travers la figura. Elle est une qualité ou un défaut de la figura. La figure du vieillard, vous ne pouvez pas la séparer du temps. La figure de l'enfant, vous ne pouvez pas la séparer du temps. C'est très curieux qu'il y a comme une espèce d'intériorité du temps qui se fait dans la figure et par la figure. Il y a une intériorité du temps. Alors, on sait que le temps a marqué à l'extérieur, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Et ça se voit chez un ami qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, qu'on retrouve au bout de 30 ans, 40 ans. Et les traits sont les mêmes, le regard d'une certaine façon est le même, et pourtant, c'est changé. La figura assume le temps. Et la figura se sert du temps pour être plus elle-même. Et puis il y a à l'intérieur même du monde physique de la figura, à l'intérieur même de notre monde physique, il y a l'acquisition en nous de certaines qualités. La douceur, la force, une figure peut-être complètement changée par le point de vue de la lutte. Ça se voyait et ça se voit chez un soldat. Qui a eu une vie dure, qui a combattu l'ennemi, il s'est épanoui en dominant intérieurement, en faisant qu'il y ait en lui quelque chose qui puisse dominer tous ceux qui sont autour de lui. Il y a ce qu'on appelle, alors, au plan philosophique, l'acquisition des vertus, l'acquisition de certains habitus qui transforment l'homme. Et donc, il n'y a plus intérieur et extérieur, tout est vu de l'intérieur, à travers une forme nouvelle qui transforme complètement la physionomie, qui transforme la personne. Bien, mais particulier de la vie et du temps, de la vie et de l'atmosphère, le froid, le chaud. Une transformation qui peut se faire de l'intérieur même, et cette transformation qui se fait de l'intérieur même, elle se fait par ce qu'on appelle les habitus. Les habitus, ce sont les habitus intellectuels et les habitus éthiques, les vertus. Ils sont cette transformation du monde spirituel. Le monde spirituel que je porte en moi est transformé par mes habitus. Instinctivement, je suis un être violent qu'on n'osait pas s'approcher de trop. On m'a dit que la violence devait être dépassée par la douceur. Et j'ai acquis la douceur. De l'intérieur, je me suis transformé à la place d'être spontané, dire directement les choses, violemment les choses, sans m'inquiéter du tout de leur résultat. Je fais attention, au contraire, au résultat. Je fais attention à la manière dont c'est reçu. Cette transformation. La lumière en moi. transformation intérieure de quelqu'un de fort, d'encore qui domine ça. J'acquiers au-dedans de moi-même les vertus. Sont des qualités spirituelles. Et j'acquiers aussi ces qualités au point de vue affectif et au point de vue purement intellectuel. Je transforme mon intelligence et je la transforme par les habitudes. Transformer intérieurement d'une façon très étonnante et jouer un personnage particulier. Il y a une souplesse très grande dans les habitus. Les habitus qui sont acquis par petit garçon, une petite fille de 10 ans. Les qualités d'un homme de 30 ans. C'est les mêmes vertus. Et de pouvoir acquérir ces physionomies intérieures différentes, c'est justement cette transformation que je donne à ma propre personne qui acquiert, je dis bien, qui acquiert ces déterminations nouvelles, qu'on appelle ça des habitudes. C'est une qualité qui me transforme de l'intérieur par l'extérieur. C'est l'extérieur qui agit sur moi et cette action sur moi, l'intérieur, me forme. L'habitude, c'est le fruit à la fois de la lutte externe et de la lutte interne. C'est l'habitus qui est une qualité personnelle très remarquable. Au fond, la personne, comme on l'emploie habituellement par au point de vue philosophique, la personne, elle est faite de ses habitus. C'est ces habitus qui me donnent la manière dont je reçois, dont je dis bonjour, dont je travaille. Et quelque chose qui arrive à me transformer très profondément, c'est acquis. L'habitus est acquis. C'est acquis par mon intelligence, par ma volonté. Continuera d'essayer de trouver un peu ce que c'est que l'habitus, parce que c'est quelque chose de tellement important comme qualité, de bien voir comment c'est quelque chose d'extrêmement personnel et en même temps C'est quelque chose qui me permet de capter tout ce qui est autour de moi. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.